Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello, c'est le Alexis du montage qui vous parle, juste pour vous informer qu'on a eu un petit problème de prise son sur ce premier épisode de Chez Josiane, le nouveau format de Nicolas, tout simplement parce qu'on n'enregistre pas cette émission avec le matériel habituel de réaliser son trucage qui est assez encombrant. Le souci, c'est qu'il y a eu un petit problème de réglage sonore qui fait que le son a saturé par instant. Alors rassurez-vous, certes c'est pas très agréable pour les oreilles, mais ça ne vous empêche en aucun cas de profiter de cette superbe interview menée de main de maître par Nicolas. Et j'en profite d'ailleurs pour vous recommander d'aller voir le spectacle de Gabriel Donzelli tous les jeudis à la Scala à Paris si vous en avez l'occasion. C'est un spectacle que j'ai eu la chance de voir deux fois et que je trouve très très drôle. Voilà, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous laisser en compagnie de Nicolas et de Gabriel. À très vite les amis.
Bonjour.
Bonjour Gabriel.
Pourquoi tu parles comme ça Nicolas?
C'est Josiane. Bienvenue quand même.
C'est qui Josiane?
Non mais je t'expliquerai, tu sais, c'est pour les questions.
Non mais toi t'es Nicolas.
Oui mais enfin c'est bon, c'est pas grave. Viens t'installer, qu'est-ce que tu penses? J'ai fait une petite ambiance, les rideaux rouges.
Ouais d'accord.
L'odeur c'est de l'encens. Hein.
Enfin là on n'est pas dans un club échangiste.
Non, c'est chez moi mais on est à la radio donc on peut faire penser aux gens qu'on est en train de... Bon viens t'asseoir.
Mais c'est pas mon style hein.
Les clubs échangistes ?
Non, mais tu sais, je suis très gentil, très calme, je suis pas du tout là-dedans.
Bonjour Gabriel Donzelli.
Bonjour Nicolas Martin. Oh, Josiane, Josiane Martin.
On se voit ?
On se connaît pas, moi je viens de te rencontrer. Et vous ?
Vous. C'est bientôt fini ?
Oui, c'est le titre de mon spectacle.
C'est jusqu'au 22 juin à la Scala à Paris, il y a beaucoup de monde, c'est un gros succès quand même.
Je crois, c'est pas à moi de dire que c'est bien, en tout cas j'aurais jamais cette prétention-là, mais c'est vrai qu'en tout cas il se trouve qu'il y a des gens et que je crois que ça leur plaît, parce qu'à la fin ils applaudissent. Mais en tout cas moi ça me fait très plaisir, je suis très content.
Merci d'être venu inaugurer ce lieu, donc tu vois j'ai un peu aménagé comme ça cet endroit. Est-ce que tu veux un thé, une absinthe, une cigarette à fumer peut-être, une suze?
Non, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, je suis très, vraiment encore une fois, un petit enfant.
On est bien quand même chez Josiane, on est comment?
Ça va commencer à devenir un tout petit peu glauque, si tu parles comme ça pendant tout le... Enfin tu me dis, après, loin de l'idée de te déranger dans ton art, mais c'est vrai qu'il y a un truc de... un peu plus professionnel à choper quoi.
Je transpire un peu là. On ouvre la fenêtre?
Ouais, Nicolas, vraiment, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps.
Ok, on va y aller. On va parler de ton rapport au cinéma en trois parties. Okay. La première partie, c'est vraiment au début, tes premiers souvenirs liés au cinéma, ton enfance, ton adolescence. Et est-ce que tu te souviens de la toute première image qui marque ta rétine, la première image de cinéma qui t'impressionne, qui va rester dans ta mémoire, qui se fixe?
J'en ai deux, trois. T'as vu, je triche un peu dans les questions.
Vas-y.
La première fois que j'ai vu un film au cinéma, en fait, ma grand-mère est projectionniste. Et donc pour moi, le cinéma, c'était un lieu de refuge un peu cocon, chaleureux, parce que j'allais dans la cabine de projection de ma grand-mère quand j'étais petit, et je la voyais projeter les films en pellicule, donc vraiment à l'époque, tu vois, un truc de... Et je la voyais porter, d'ailleurs, elle s'est pété l'épaule et le dos avec ça à force de le faire pendant des années, et elle portait la pellicule, elle la mettait dans le projecteur, et elle faisait tourner, et il y avait tout un processus vraiment mécanique, enfin c'était vraiment un truc genre... Pour moi, c'était, alors que c'était des cinémas de banlieue, pas forcément hyper... Mais moi, c'était... Vraiment, j'admirais ma grand-mère faire ça. Et le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Tchoupi. Donc, chef-d'œuvre absolu. Non, mais c'était Tchoupi et ses amis. Et genre, c'était un film avec Tchoupi qui perd ses doudous et il doit les retrouver. Je sais plus très bien en tête le truc. Et c'est le premier film que j'ai vu, c'était au cinéma, le Trianon. Lila ou Romainville, je sais plus. Et donc ça, c'est mon premier choc. De qu'est-ce que c'est que projeter un film sur un écran et qu'est-ce que ça donne. Et je me souviens, je me cachais avec elle dans la cabine de projection et je regardais les films derrière la cabine. Et un jour, j'étais en salle. Ça, c'était mon premier choc de cinéma. Le premier choc des images, il s'est fait un peu plus tôt quand j'étais à l'hosto, parce que quand j'étais petit, donc j'étais à l'hôpital. Et il se trouve que j'avais comme passe-temps de regarder des films. Et alors attention, c'est pas non plus glorieux, mais je matais en boucle Le Livre de la Jungle 2.
Le DTV, pas le Disney.
Non, non, le Disney, ils ont fait une suite.
Oui, c'était en DTV, en direct ou vidéo.
Ouais, voilà, exactement. Et mon père avait tellement honte qu'un jour, il a jeté le DVD. Parce qu'il préférait que je regarde le 1. Il préférait que je regarde le 1. Mais je m'identifiais à Mowgli et à son sourire sur le côté à la fin du film, dans le 1. Donc, je m'attais le 2, mais dans le 1. Et donc, un de mes premiers chocs esthétiques de cinéma, c'était Mowgli qui a un sourire en coin, qui regarde une fille pour la première fois et qui sourit sur le côté. Et je me suis dit, putain, c'est marrant, il me ressemble. Parce que moi, j'ai un sourire sur le côté, parce que j'ai une partie du visage qui dit merde à l'autre. Et voilà. Et le dernier choc, vraiment, vraiment choc de cinéma, c'était E.T. de Spielberg. Pareil, identification, mais à 150% à Elliot. Et des larmes, ne plus savoir qu'en foutre.
E.T., ça te fait peur ou, enfin, tu le vois à quel âge, tu te souviens?
E.T., je le vois primaire. Je dois être en CM2, donc je dois avoir 9-10 ans. Et c'est mon père qui me le montre pour la première fois. Et choc d'identification, vraiment, ça fait pas peur, étrangement. Alors que pour le coup, j'ai mis très longtemps, moi je suis quelqu'un qui a eu très souvent très peur, jusqu'à longtemps, de tout au cinéma. C'est-à-dire que moi, le son me faisait peur, les choses me faisaient peur, j'avais peur, je suis allé voir Réponse au cinéma, le Disney, j'étais terrorisé. J'ai vraiment eu des trucs où je pouvais pas regarder de films tellement j'avais peur pendant longtemps, parce que c'était un peu un truc de trauma, voilà, qui faisait écho à des choses, le bruit, la salle, le truc. Mais en fait, E.T., ça m'a pas fait peur, ça m'a ému. J'ai été touché par ce jeune enfant qui devient pote avec ce petit alien. Et surtout, à la fin, le moment où E.T. spoil, mais
on peut y aller.
Il y a la fin où E.T. donc, se fait capturer par les scientifiques et ils ont des tuyaux et E.T. se dégrade. Et ben, forcément, ça m'a fait de l'identification. Pourquoi tu dis ouais par rapport à quoi tu...
Parce que j'ai vu ton spectacle et puis tu racontes ces choses, enfin je me suis renseigné en fait,
que
sur le fait que tu étais un peu à l'hôpital ou...
J'étais à l'hôpital.
Tu as tout inventé?
Non, c'est pas vrai.
Justement, question suivante, la première peur, le premier film, ta première peur d'enfance au cinéma, c'est quoi, tu te souviens?
Ma première peur, il y avait un dessin animé que j'ai regardé chez ma belle-mère à l'époque, qui m'avait vraiment traumatisé ma race, et j'ai plus le nom. C'était Les Nuits de quelque chose. C'était un espèce de dessin animé bizarre avec des... En fait, c'est marrant parce que c'est souvent dans des trucs d'enfance. Moi, par exemple, je me souviens de la bande-annonce. Alors, attention, c'est vraiment des trucs où, pour le coup, on est vraiment pas dans le plus haut du cinéma. Mais il y a eu aussi hein, beaucoup de... Mais c'est vrai que je me souviens de moments où je rentrais de l'école, je regardais des bandes-annonces. Et il y avait la bande-annonce de Peter Pan 2. Souvent des suites de Disney un peu ratées.
C'est grâce à toi que Disney a continué à faire des DTV, ouais. Parce que tu les achetais tous, en fait.
Les remakes et tout, le PIB de Disney. Non, mais il y avait ce moment-là où le Capitaine Crochet revenait chez la fille de Wendy, et il y a la porte qui s'ouvre, des volets avec le vent qui fait bouger les rideaux, et le crochet qui vient dans la chambre. Et en fait, c'était des moments précis où des images se fichent dans ton cerveau et juste te font peur. Et en fait, me rendre compte que, qu'en fait, avec les images, on peut avoir de l'effet. Et qu'en fait, ces images-là marquent, c'est comme dans Le Roi et l'Oiseau. Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment probablement même un des premiers quand même. Le roi qui sort du tableau dans Le Roi et l'Oiseau. Enfin, Le Roi et l'Oiseau, de manière générale, trauma absolu. Mais le roi qui sort du tableau dans Le Roi et l'Oiseau, genre cauchemardesque. Horrible, parce qu'en fait, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu. En fait, c'était comme le reflet ou la représentation des rêves ou des cauchemars qu'on pouvait avoir, mais en visuel, enfin, face à des images qui ne sont pas réelles et qui, en même temps, te font de l'effet... Ouais, un rapport, mais du coup, en même temps, très chaleureux aussi, parce qu'il y avait un truc chaleureux dans l'idée de regarder un film, regarder des images... Ça attire l'œil, enfin, il y avait un truc spécial, quoi. Mais tout ça, c'est dans la petite enfance, quoi.
Si on avance un peu dans le temps, tu te souviens du premier film que tu allais voir tout seul au cinéma?
Oh, non. Attends, je vais réfléchir un peu.
Si, t'as pas le droit de dire non.
Non, mais parce que je me souviens qu'il y avait une grosse période de lycée où j'avais pas de copains, ni de copines. Et j'allais au cinéma, je faisais le 9h des Halles. Et j'adorais y aller. Et je me faisais des films. Donc, j'ai pas de film en tête, mais il y a une grosse période où je me faisais énormément de films tout seul. Et où je me suis rendu compte aussi que je pouvais le faire. Un jour, j'ai croisé un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, et il me dit « Ouais, je vais voir un film. » Et je me suis dit « C'est fou, il va au cinéma tout seul, c'est trop stylé, moi aussi je veux faire ça. » Et c'est... Ouais, je suis allé voir plein de films tout seul, mais j'ai plus le souvenir du premier en tête. J'ai des... Ouais, La Planète des Singes, je me souviens peut-être...
Le Burton ?
Non, pas le Burton. Un des volets récents de Matt Reeves, ouais. Qui était vraiment génial d'ailleurs. Je crois que c'était... Je sais plus le nom, mais c'était le troisième, je crois, de Matt Reeves, que j'ai vraiment adoré pour le coup. Mais c'était des moments où j'étais tout seul avec l'écran, quoi. Et en plus de ça, c'est des 9h où il n'y a pas beaucoup de monde. T'es tout seul dans la salle, t'as un peu l'impression que le cinéma est privatisé pour toi. et tu mates des films. Enfin, c'était trop bien. Quoi. J'en ai maté plein de comme ça.
Est-ce qu'il y a un film que tu t'es vanté d'avoir vu, même si tu ne l'avais pas vu, par exemple? Moi, je sais que je me suis longtemps vanté d'avoir vu Freddy au collège, alors que je ne l'avais pas vu, tellement ça me faisait peur l'idée même de Freddy.
Est-ce que tu veux en exclure une anecdote un peu people, un peu ridicule et très marrante?
Josiane est là pour ça.
Non, tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes tout de suite. J'étais à un événement quand j'étais plus petit et il y avait Lambert Wilson. Et il y avait un film qui me matrixait un peu avec Lambert Wilson, qu'il avait fait avec Luc Inic, qui s'appelait Elle cesse la bicyclette. Et que j'avais pas vu, mais que j'avais vu que la bande-annonce. Et c'était vraiment une époque où je rentrais du collège et je regardais des bandes-annonces sur Allociné. Il venait de sortir Marsupilami avec Alain Chabat, donc en Céline Dion, donc j'étais fan de ce mec. Et je suis allé le voir et je lui ai dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Il m'a dit ah merci beaucoup et tout. Et la soirée a su son cours. Il est revenu un moment. Il m'a dit alors, dans quoi tu m'as vu? Dans quoi tu m'as vu? Et je lui cite plein de films. Et je lui fais, Elsa, sa bicyclette. Il me fait, ah, tu l'as vu? Et je fais, oui. C'était super et tout. Et il était choqué parce que tu sais, j'avais 12 piges. Donc pour lui, c'était quoi? Je l'avais pas du tout vu. Vraiment, j'ai menti. D'ailleurs, s'il nous écoute, j'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas, des années plus tard.
Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'il y a une nudité à l'écran où tu te dis, ouh, il se passe un truc bizarre?
Bizarre comment?
Bizarre comme tu veux. Qui t'a fait rougir? Un truc où tu dis, ouh, il se passe quelque chose?
Ouais, c'était à la télé, Superman et Loïs. Avec un malfrat qui couche avec la meuf de son père. C'était très bizarre, hein, mais ça m'a un peu choqué à l'époque. Parce que j'étais un peu traumatisé entre c'est horrible, et en même temps la meuf est super belle, et c'est pas sa belle-mère parce qu'ils viennent de se rencontrer, c'est une espèce de meuf hyper riche parce que c'était Superman, donc c'est un grand méchant. Avec des... Et donc, un des premiers, j'étais tout petit, hein, je devais avoir. Enfin, tout petit, 12-13 ans, quoi. Parce que ma grand-mère regardait beaucoup la télé à la maison quand on était avec elle. Et la télé tournait un peu et je regardais, très bizarre. Tu sais, un peu le premier truc de... Voilà, où j'étais là, oh, très bizarre, un peu choquant. Et évidemment, toutes les scènes de cul qu'on regarde quand on est en famille et qu'il se trouve qu'il y a une scène de cul dans le film, enfin le cliché du moment gênant, quoi.
Dans Josiane, 45 ans, par exemple, quand on le regarde le dimanche soir...
je me sors d'ici.
Non, reste là, mon chéri. Non, plus la voix, on a dit plus la voix. Je fais plus la voix, promis, je fais plus, j'arrête.
Si tu m'appelles j'arrête. Mon chéri...
On arrête, ouais, il va y avoir... Pardon. Le film qui déchire ton petit cœur de porcelaine de petit garçon.
On va revenir à Tchoupi. Il y a un épisode de Tchoupi où Tchoupi, il vend Doudou et des larmes. Non, le film qui me fend le petit cœur, Les Parapluies de Cherbourg.
Tu le vois assez jeune, ça?
Non, je le vois tard. Non, alors jeune, tu veux dire? Jeune. Enfant ou...
Enfant.
En fait, enfant, il y avait un truc bizarre où mon père m'a montré à la fois Ferris Bueller et À bout de souffle de Godard, et en même temps je matais les sketchs du Palmacho et Winnie l'ourson. Enfin, si tu veux, j'ai eu un truc très bizarre entre mes 0 à 10 ans où vraiment j'avais une palette, si tu veux, de moi au collège j'emmenais mes potes voir les films d'Emmanuel Berco. Enfin, c'est ça, ça n'avait aucun sens. Et en même temps, à côté, je matais des dessins animés et je matais Cars. Hier, j'ai eu hyper envie de regarder Cars 2. Et j'adore la première partie de Cars 2. Je la trouve vraiment réussie dans l'espèce d'hommage aux espions. Parce que ça m'a rappelé mon enfance où je matais vraiment les deux. Et je me souviens d'avoir regardé Winnie l'ourson, les félins. Donc, non pas l'éléphant, mais les félins. Avec une mère en prison dont le fils est séparé. Et il se retrouve face à elle en prison. Et vraiment pareil, les larmes, quoi. C'est marrant, c'est souvent des trucs liés à la famille, l'idée d'être abandonné par ses parents, ou d'abandonner ses parents, ou d'abandonner ses frères et sœurs, ou de... Je me souviens que j'étais très 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 ému. En fait, on va dire que les 10 premières années de ma vie, j'étais très 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 sensible. Et donc, dès qu'il y avait un truc qui pouvait s'approcher de ma vie ou de mes angoisses, donc la peur, donc les pleurs, ça pouvait partir vraiment au quart de tour et c'était très traumatisant. Donc, j'ai des images de peur. C'est comme le méchant de La Princesse et la Grenouille, que j'adore. Moi, j'adore ça, c'est la grenouille. Et je trouve que le méchant est très réussi parce qu'il a ce truc-là de malsain. Les méchants malsains, tu vois. C'est comme après t'as des méchants dans les films, ça nous marque, quoi. C'est comme tu vois, la première fois qu'on voit Dark Vador, le visage brûlé dans l'épisode 6, il est traumatisant, quoi. C'est des trucs.
Mais globalement, de toute façon, tous les Disney sont d'une grande cruauté, d'une grande tristesse, et marche sur les traumas. Je veux dire, la mort de la maman dans Bambi, le début de Dumbo.
Dumbo. Oh là là, Dumbo. Dumbo.
L'enfer.
Dumbo, les larmes. En plus, c'est dans un cirque, tout est sale, les mecs sont méchants, tu sais plus où ce qui se passe, c'est horrible.
Brisby et le secret de Nîmes, qui étaient les Don Bluth qui essayaient de concurrencer Disney, une petite souris dont la famille est en train de mourir noyée dans la boue dans un parpaing et elle chante.
Tu sais quel film m'a traumatisé? Numéro 9. C'est plus récent, mais numéro 9.
Très joli.
Horrible. des traumas. Numéro 9 est le méchant de Basile le détective.
Ouais. Ratigan, le plus méchant. Pour finir cette première partie, le film le plus important de ton adolescence, celui qui t'a marqué, celui qui t'a changé, celui qui a changé peut-être même ton rapport au cinéma.
Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. Parce que le rapport au père, le rapport à la différence, fuir ce qu'on est. Pendant longtemps, j'avais l'impression que plus tard, mes enfants regarderont le... C'était un peu... Tu sais, on joue souvent quand on est enfant, et j'avais l'impression que plus tard, mes enfants pouvaient voir le film de ma vie, et que j'imaginais un Gabriel parfait plus tard. Tu sais, j'étais très pas parfait quand j'étais enfant, et même toute ma vie. Et donc j'imaginais qu'est-ce que ça serait un Gabriel parfait, entre guillemets. Et je me souviens que je m'identifiais vachement à des figures, tu vois. Et la figure du paternel dans Fantastic Mr. Fox qui gère et qui en même temps est là et qui en même temps est beau et qui en même temps... Et je trouvais ça immensément bien écrit. Et la scène du loup dans Fantastic Mr. Fox, c'est probablement une des plus belles scènes pour moi de l'histoire du cinéma. Et c'est vraiment mon film préféré. Et à côté, il y avait Ferris Bueller en boucle. Ou pareil. C'est marrant, ils ont tous les deux des cravates. Mais il y avait un truc de d'identification, tu vois, soit à des figures fortes de lycée cool, soit à des pères de famille, soit à des... Et c'est vrai que Fantastic Mr. Fox, ouais, ça a été un des premiers films qui m'a le plus vraiment ému, quoi. Et parlé dans tous les sens du terme, le rapport, ouais, au fils, au cousin prodige, à la fuite du danger constante, au personnage de la taupe qui part un peu en couille, au besoin qu'il a de... Enfin, c'est super beau, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert Wes Anderson et ça m'a marqué vraiment très fort.
On passe à aujourd'hui, maintenant. Est-ce que tu dirais qu'il y a un film en particulier qui t'a donné envie d'être comédien, de faire de la scène, qui t'a inspiré en tout cas dans ta pratique du métier de comédien ?
Toute la filmographie de Jim Carrey, les 7 ans de brio qu'il a eu, des frères Farrelly à The Mask, le jouer avec son corps comme ça, ça m'a... Il y avait ça un peu avec Eddie Murphy. Dans la coolitude qu'il avait dans le film de Beverly Hills. Mais c'est toujours de la comédie quand même. Il y a le burlesque, beaucoup. Quand j'étais petit, c'était Chaplin, parce que tout le monde regardait les films de Chaplin, et encore aujourd'hui, ça me fait mourir de rire. Il y avait un rapport au burlesque. Donc Chaplin, Pierre Richard un peu en France, Jim Carrey au cinéma énormément, et Will Ferrell. Je remercie le monde de m'avoir fait découvrir Will Ferrell. Et quand il y a Will Ferrell et Jim Carrey, alors là, Mais ouais, le rapport au physique, comment tu fais un truc de ton physique? Et je crois que l'envie de scène, ça s'est aussi fait avec, pour le coup, pas mal de spectacles aussi, mais au cinéma, j'ai été très très impressionné par Man on the Moon de Foreman, où pour le coup, j'ai été sur la folie du mec, quoi, et la puissance. Il y a un film que j'ai toujours pas vu, mais que mon conseiller, mon co-auteur avec Dustin Hoffman sur le stand-up. S'appelle Lenny. Il faut que je regarde Lenny. Il paraît que c'est génial. Et dans les derniers, plus récemment, dans les derniers qui m'ont touché, il y a quand même Bo Burnham, dans un truc qu'il a fait sur le confinement, qui était plutôt beau. Et évidemment, sur le stand-up et Funny People de Judd Apatow, ou le rapport à la maladie et la dépression.
Le film qui te fait rire, même au bout du 10e visionnage, qui te fait toujours rire, dont tu ne te lasses jamais.
Step Brother, Adam McKay, qui a commencé avec la comédie. Et c'est vraiment un truc tout simple. C'est un couple qui se met ensemble, mais qui ont tous les deux un enfant de 30 ans, qui vit encore chez eux. Et c'est tous les âges mélangés dans un seul et même être humain. Et ça part à un niveau de couille, mais c'est n'importe quoi. Et c'est hilarant, et ils se battent. Enfin, je saurais même pas le décrire à quel point c'est de manière... c'est brillamment burlesque et hilarant de trash, quoi. Et c'est des situations... vraiment inconcevable, mais deux demi-frères qui doivent cohabiter, mais qui ont 30 ans. Donc évidemment, tout est possible, et à partir de là, tu pars, quoi.
Le film qui ne fait rire que toi, uniquement.
qui fait rire que moi ? Ace Ventura, on est peut-être deux. Et aujourd'hui, en plus, c'est ultra problématique, c'est transphobe, raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, c'était quand même sacré. C'était débile. Mais après, j'aime bien les trucs un peu niche, et qui font rire que moi... C'est assez universel, hein. En vrai. Tu as Jim Carrey, tout le monde l'adule, quoi.
Un film que tu as honte d'adorer. Vraiment un film que tu adores, mais t'as vraiment honte. T'oses pas trop le dire parce que c'est gênant socialement.
Elles sont dures, tes questions. C'est dur de trouver un film.
Il y en a deux, ça marche. Hein.
Ouais, Incognito. Avec Dubosc et Benabar. Dieu que j'adore ce film.
Avec Dubosc et Benabar, déjà, ça me donne des sueurs.
Tu connais pas ce film?
Non.
C'est un bonheur. C'est Benabar qui joue. Ok, Benabar qui joue un vieux chanteur. En gros, c'est un mec. Il a un petit groupe de musique avec deux potes qui jouent dans des cafés parisiens. C'est la dèche. Il y en a un qui meurt à moto et l'autre qu'on revoit plus jamais. Et il rencontre Franck Dubosc dans ce même bar-là. Et ça, c'est le début du film. Donc, on établit les bases du film comme ça. Ils sont ensemble. Et il se trouve que, finalement, il devient contrôleur RATP parce que la musique, ça marche pas. Donc, il se retrouve à être contrôleur RATP. Et il devient le meilleur ami de Franck Dubosc, qui est, à l'époque, mime dans les bars parisiens et très mauvais mime. Il est hilarant dans ce film. Mais hilarant. Et il se trouve que ils finissent en coloc. Dubosc est un espèce d'adolescent éternel qui se balade à poil chez lui et qui d'ailleurs ne paye pas le loyer parce qu'ils sont semi en coloc. Et Benabar trouve un petit carnet chez lui. Il sait pas à qui ça appartient. Sûrement à son pote qui a disparu. Donc pour lui, les deux sont morts. Et il l'ouvre et il y a Anne-Marie Vin qui arrive, qui a un date avec lui. Et il se met à sortir avec Anne-Marie Vin, qui est sublime dans le film. Et il se trouve qu'il ouvre le carnet, il y a une chanson, il se met à jouer la chanson, il sort la chanson et il devient une énorme star. Et sauf que pour lui, c'est illégitime parce que c'est pas lui qui a écrit la chanson. Il devient une énorme star et donc il y a cette phrase sublime, il dit « Certains chanteurs tombent dans la drogue, d'autres dans l'alcool et moi, pour garder les pieds sur terre, j'avais gardé Francis. » Et Francis, c'est Franck Dubosc, il le suit. Sauf que le pote qui a disparu revient. Et il se trouve que normalement, c'est le carnet du pote qui a disparu. Et donc tout le film, c'est comment Benabar va faire pour montrer qu'il n'est pas une star et pour cacher le fait que c'est une star de la chanson française.
Je pense que tu inventes ton... T'es en train d'improviser un truc qui n'existe pas.
Je te jure que c'est vrai. C'était incroyable. Avec la chanson « Qui le saura ?» Enfance totale Madeleine de Proust. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. La vie de ma mère, c'est incroyable.
Le chef d'œuvre que tu détestes ?
Forrest Gump.
Pourquoi ? Parce... J'ai entendu derrière oh, « il y a une désapprobation dans l'assistance. »
Aurélien qui... Mon attaché de presse, il est très choqué. Forrest Gump...
Je suis d'accord avec toi, j'aime pas Forrest Gump.
Gênant, le mec est gênant, le mec est triste. Soignez-le, essayez d'être gentil avec lui. Même le réel, on a l'impression qu'il est complaisant dans l'idée de filmer la débilité de ce mec qui est juste perdu. Et le pauvre, c'est malaisant. À part peut-être le truc des crevettes, c'est sympa, mais c'est tout. Franchement, avec sa pote qui fait que venir, repartir, revenir, partir, je trouve ça hyper cliché. Alors que Retour vers le futur, du même réal, c'est fou et brillant de A à Z, à part le 3 qui est un peu moins bien. Il s'est dit, ouais, mais des cow-boys. Mais sinon, mais que j'aime bien aussi, attention.
Tu limites vachement bien d'ailleurs, Robert Zemeckis. Ouais. Vas-y, tu le fais comment ?
Indiana Jones.
Bon. J'ai une imitation de Robert Zemeckis par Gabriel Donzelli. Ton chef-d'œuvre à toi, le film qui surclasse tous les autres, vraiment, c'est le tien.
Qui surclasse tous les autres ? Alors attends, on va faire un minimum de réflexion. Mets la pub.
Bonjour, vous êtes bien chez Josiane. Nous passons un excellent moment en ce moment avec Gabriel Donzelli. Petite liqueur de prune délicieuse. Pendant que je fume des cigarettes avec un fume-cigarette très large, je mets un peu de palier d'Arménie.
Ah oui.
C'est pas mon préféré, mais je crois que s'il y a un film où vraiment je me dis putain, quand même. Je crois que c'est La Nuit Américaine de Truffaut. Tu vois, en fait, c'est pas calibré dans le sens où, en fait, c'est très subjectif, tu vois, quel film surpasse tous les autres. Mais pour moi, s'il y a un geste où vraiment le mec a fait un perfect d'art, tu vois, d'être au sommet de son art et au sommet du cinéma au moment où il est sorti, tu vois, qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce qu'un grand film? C'est La Nuit Américaine de Truffaut, je crois. C'est un film sur le cinéma, mais du coup, un film sur la vie aussi et sur, tu vois, il s'auto-chie dessus avec la meuf qui dit qu'elle déteste le cinéma. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de vengeance, des histoires de dépression, des histoires. Je crois que ouais, Numéricaine, c'est un très 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 grand film. C'est pas mon préféré, hein, mais c'est un très 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 grand film. Et après, Hitchcock aussi, là, il a bombardé des gros chefs-d'œuvre.
C'est La Nuit Américaine. Ce sera La Nuit Américaine pour toujours.
Non.
Ce sera écrit sur ta fiche Wikipédia. Si, parce que...
Non, non, non.
Ah, bon, ok.
Non, mais parce qu'après...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est horrible, c'est comme si tu me cloisonnais.
Tu dois faire, la vie c'est des choix, Gabriel.
Oui, d'accord.
Oui, bah voilà.
D'ailleurs, t'as vu l'embarras du choix avec Alexandra Lamy? Bah c'est une meuf, elle sait pas choisir. Et c'est tout le film. Il n'y a pas de chute.
La première fois que tu arrives sur un plateau, il se passe quoi?
Pourquoi? Pour jouer ou pour...
La première fois que tu arrives sur un plateau, c'est ton premier rôle, tu es sur un plateau, qu'est-ce qui se passe? Ton souvenir
J'ai peur. Je me demande si je vais être à la hauteur. En fait, il y a un truc bizarre, différent de la scène, où quand je suis sur scène, j'ai très peur parce que le public, les gens attendent quelque chose de toi, t'as le stress, c'est vraiment un saut dans le vide. Vincent Lodienne dit sauter du rocher, ça, tu sautes du rocher. Le cinéma, il y a un truc bizarre. Alors attention, de ma petite personne qui n'a pas fait encore de grandes choses, mais qui a quand même fait 2-3 tournages, il y a un truc de peur, de vous êtes sûr que moi, devant la caméra, avec ce rôle-là, à ce moment-là, ça marche, ça veut dire quelque chose. Vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas gouré que quand les gens ils vont voir le truc, ils vont se dire « Ah oui, on y croit, ça marche, on est touché par ce mec, ça nous parle. » Enfin, vous êtes vraiment sûr de vos choix, quoi. Un doute constant. Un truc de « Ah bon ?» Bon, bah, et en fait, du coup, je laisse quand même, à l'inverse de quand je réalise, ou dans l'idée, quand on écrit avec Timothée, ou quand je vais réaliser, ou les peu de choses qu'on a fait dans les sketchs, dans la manière de... Ou pour le coup, tu maîtrises un peu plus parce que tu réalises. Mais quand je joue, et seulement je joue, je laisse la main mise à 100% au réel parce qu'il sait ce qu'il fait. Et apparemment, ça marche. Donc s'il m'a choisi, c'est que visiblement, ça peut marcher. Et en fait, je suis obligé de mettre le doute de côté. Là où le spectacle, je suis en contrôle fric constant. Enfin, pardon, je compare du coup forcément. Oui, mais c'est vrai que pour le coup, il y a un truc de lâcher prise obligatoire et spécial, parce qu'en même temps, du coup, tu dois calibrer le truc. Donc quand tu proposes des choses, moi, je mets toujours des pincettes, j'essaie de comprendre... Tu vois, par exemple, j'ai tourné dans un truc où... Enfin, dans une série. Et il se trouve qu'il y avait un dialogue que je trouvais pas hyper 2024. Où genre, on parlait d'une meuf qui devenait un patron. Et je dis, c'est bizarre qu'elle devienne un patron. Genre, elle devient un homme. Et je dis, ah, c'est mieux de dire patronne. C'est mieux de... Enfin, bref, c'est un détail con, mais... Et où pour le coup, je me suis un peu, entre guillemets, bataillé 5 minutes pour qu'on puisse quand même changer le truc et mettre un peu plus en valeur le personnage de la meuf. Et la réelle a trouvé ça, et le réel a trouvé ça super, et évidemment, c'était un truc qu'on n'avait pas discuté, et qui était resté, qui devait être changé, enfin, tu vois. Mais en tout cas, c'est vraiment des détails où je me permets, moi, de mettre une mini patte quand j'ai l'impression que le personnage, pour moi, je crois vraiment qu'un film, c'est un réel, quand même. En tout cas, en France, aux États-Unis, il y a quand même plus ce truc-là de faiseur, comme on dit, de technicien. Mais j'ai l'impression que quand un artiste fait un film en France ou même dans le monde, et qu'il te choisit, tu te donnes à lui, quoi. Enfin, en tout cas, dans le travail, je veux dire, dans...
Ça veut dire que t'as confiance, quand même. Wow. Ça veut dire que t'accordes ta confiance complètement au réalisateur.
Ça veut dire que j'accorde une évidence de maîtrise. C'est-à-dire que oui, une confiance dans le travail, pas une confiance de « Ah, tu penses que moi, parce que moi... » Pas une confiance de « Ah, je vais être bien. » Ça, c'est sûr que j'en sais rien et je pense même pas. Mais une confiance de « Bah, il a l'air de savoir ce qu'il fait. De toute façon, qui suis-je pour... » Enfin, tu vois, à ce moment-là, bon, bah, c'est son choix, quoi.
Ton meilleur souvenir et ta pire expérience sur un plateau de tournage?
Je crois que ce que je préfère... Dans les tournages, c'est la communion d'une équipe fière d'un travail qu'on fait. Quand on se retrouve pour une projection équipe et qu'on voit le résultat ensemble, c'est vraiment un moment très fort parce qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose. Et je crois que c'est plus la réception du film que la création du film. Parce que la création, on est dedans et on se pose plein de questions constantes. Et donc on travaille et on attend beaucoup. Les moments d'attente sont sympas. Le truc où moi je m'entends bien avec les gens de mise en scène, on discute, on passe du temps et on s'entend bien. Et on...
Tu t'ennuies pas, tu tournes pas en rond dans ta roulotte?
Non. Je suis très addict à mon téléphone, donc Instagram ou Stumble Guy, enfin plein de jeux. Mais mon pire souvenir, ce serait justement quelque chose de gens qui se comportent pas bien, quoi. J'ai fait une scène un jour avec quelqu'un qui s'énervait très fort. Et genre vraiment, il était très énervé de ce qu'il faisait, de trucs, et il coupait la scène, il s'énervait. C'est vraiment très agréable. Enfin, il y a un truc aussi où, même quand les choses sont dures à faire, de quand même garder une communion et un truc fort où on est tous dans la bienveillance et dans le, tu vois, moi je le dis des fois quand j'arrive pas à faire des trucs ou quand je m'arrête à me concentrer ou quand je... C'est pour ça que j'ai une équipe, moi, avec laquelle je travaille qui est géniale constamment, quoi. C'est que quand je sens que Et puis comprendre comment l'autre travaille. Moi, je suis très, j'ai des troubles de l'attention, je suis stressé, je suis angoissé, je suis machin. Donc, je sais qu'il faut me recadrer et que, enfin, il faut aller me chercher dans le plateau parce que je marche, parce que. Mais quand on comprend avec qui on travaille, quand c'est Alexandre Astier qui dit je veux plus travailler avec des connards. Et il a raison. Enfin, vraiment, entendre ce qui se passe bien, c'est quand même chouette, quoi. Après, ça reste du travail. En fait, je me suis rendu compte aussi que c'était le monde du travail. En fait, ça change pas tant que ça. Moi, j'ai déjà eu des gens qui ont été très durs avec moi sur des trucs où j'étais obligé d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Je pouvais plus être là et on m'a un peu défoncé. Et c'est vraiment pas agréable parce que c'est vraiment une pression d'un patron face à quelqu'un qui a un travail pour lui. Et en fait, je me rends compte que c'est le monde du travail. Donc en fait, c'est pas genre le cinéma. Mais Bully Lennard, ça fait un très beau discours il y a pas longtemps là-dessus, sur le fait qu'en fait, les problèmes qu'il y a dans le cinéma, quelconque, hein, de relations ou de, ils sont similaires à des problèmes qu'il y a dans une boîte ou à des problèmes qu'il y a dans un secteur avec des infirmiers ou dans un, j'ai l'impression qu'en tout cas, sans du tout prendre la parole sur quoi que ce soit, parce que je suis pas du tout légitime de, mais juste essayer de, en fait, je me rends compte que quand je dîne avec mes oncles et mes tantes, bah, en fait, le collection, il est partout. Ou le collègue adorable. Donc, en fait, il faut arrêter enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il n'y a pas à glorifier un cinéma. En fait, c'est le monde. Le film de. Moi, j'ai adoré le dernier film de Cédric Kahn là-dessus, pour le coup. Je trouvais ça super bien amené sur le monde du travail, quoi. Making of, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super de justesse sur, ouais, le monde du travail. En fait, c'est le monde du travail. C'est du travail. Donc, en fait, il y a des gens chiens, des gens cool. Enfin, voilà, quoi.
Allez, troisième et dernière partie, tu vas voir ces réponses un peu plus pif-paf, ping-pong, tac-tac,
oh, merde.
Hip-hop, tic-et-toc.
Ouais, ouais. Tac. Zip et zap.
Ah, aussi.
Ok, ya, yeah, non,
pas de... non, ça non, on va pas du tout aller sur ce terrain-là. Le téléphone sonne, on t'offre le rôle de ta vie. Quel est le réalisateur ou la réalisatrice au bout du fil? Hello, it's... Bonjour, Varum... Non, je sais pas faire en allemand.
Alain Chabat, Alexandre Astier...
Non, on avait dit un. Un et une.
Un et une?
Ouais.
Justine Triet...
Au moment où on enregistre, elle vient de gagner l'Oscar du meilleur. C'est vraiment, tu non, suis d'une sorte de conformisme,
non,
Gabriel.
Non, elle est quand même super stylée. Attention, parce que je sens qu'elle va chercher quelque chose chez les gens et ça me parle, ça me touche.
En direction de comédienne et de comédien, elle est incroyable. Moi, j'ai revu Anatomie d'une chute ce week-end.
Ouais.
La direction, la précision de la direction est spectaculaire.
On a quand même bien envie de travailler avec elle, quoi. Elle est impressionnante.
On te propose de réaliser le remake d'un film.
Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien m'imaginer que les comédies avec Kev Adams, que je respecte beaucoup, même sur scène et dans son travail, pouvaient être mis en comédie d'auteur un peu réussie. Donc, je réécrivais les comédies. Et je me disais, c'est marrant, il y a ça qui bloque dans le scénario, il y a ça qui va pas, il y a ça qui truc, il y a ça qui machin. Parce que les idées de base sont pas toujours ratées. Mais là où, après, c'est de la grosse comédie populaire, donc on va pas changer ce que c'est. Mais je m'imaginais les refaire. Les refaire avec un nouveau casting, avec plus de réflexion, avec plus de choses à raconter dedans, quoi. Que ce soit pas juste Danny Boone radin et c'est ça le scénario, quoi. Enfin, tu vois. Attention, Danny Boone.
On l'embrasse déjà.
On l'embrasse.
Qui réalise ton biopic?
Sylvain Tesson, non.
Deuxième réponse.
C'est vrai, parce qu'il a une paralysie faciale.
Ah.
Non, qui réalise mon biopic?
J'avais pas dit qui joue ton rôle dans ton biopic, qui réalise ton biopic.
Michel Gondry. Michel Gondry, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est une merveille absolue
pour
la Ligue des Solutions, dans lequel j'ai eu un mini rôle et dans lequel j'ai fait plein de trucs. Et c'est vraiment mon premier souvenir de cinéma. Et Michel Gondry, travail magnifique, âme d'enfant sublime. Et j'ai jamais vu quelqu'un aussi connecté avec son monde et aussi dans son monde à lui en même temps. C'est passionnant. Et je pense qu'il serait très bon.
Star Wars ou Star Trek?
Star Wars.
Alien ou Predator?
J'ai pas vu, ni l'un ni l'autre. Alien, si, j'ai vu le 1, Alien.
Interstellar ou la soupe aux choux?
La soupe aux choux, je déteste Interstellar.
Moi aussi.
Ouh, attention les auditeurs oh non, ils détestent Interstellar.
Je déteste Star Wars.
De ciné ou quoi? Pardon, désolé. T'as dit quoi?
Je déteste Star Wars aussi.
Mais pourquoi?
Je t'en parlerai un autre moment.
Mais c'est très bien.
Une réplique que tu connais par cœur?
Ah, champagne... si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Ça vient d'où?
C'est à bout de souffle, c'est Belmondo dans À bout de souffle. Avec un gros regard cam, c'est dégueulasse, le mec en a rien à foutre. Godard c'était quand même génial, il faisait des films en n'en ayant rien à foutre aussi, quoi. Si, magnifique, Monsieur Martinetto qui est joué par, comment il s'appelle, réalisateur du Samouraï, Melville. Melville qui joue un écrivain dans À bout de souffle, et il est interviewé par plein de gens, il y a Jane Seberg qui lui dit « Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ?» Et il dit « Devenir immortel, puis mourir. » Et c'est ce qu'a fait Godard.
Allez hop,
drop the mic. Ah, en fait, c'est pas qu'un humoriste, il est cultivé.
Pardon.
Le plus mauvais film au monde que tu as vu.
Plus mauvais film au monde, Radin avec Danny Boone. Pardon, Danny Boone, mais c'est,
embrasse.
C'est vraiment pas très bien. Non, Radin et... attends, si, il y avait un truc dragon avec un mec qui se faisait... Ouais, dragon... non, mais... Non, Planes. Pixar. Je sais que vous m'écoutez. Pourquoi vous avez fait Planes ? C'est-à-dire que vous faites des super films, tout est très bien amené, hyper bien écrit, ça raconte des choses hyper belles. Toy Story 3, c'est vraiment un immense film sur l'âge adulte. Enfin, tout est trop beau et vous faites Planes. Je comprends pas. Si vous êtes dit, on a fait des voitures avec des yeux, on a fait des avions avec des yeux, en plus un spin-off.
Je reconnais le mec de Pixar, oui.
Bob Iger, directeur de marketing de Pixar. Ils ont un peu la même voix avec...
Le meilleur Marvel.
Oh, le meilleur Marvel. J'adore Marvel. J'adore Marvel. Je suis fan de Marvel. Iron Man. Non, c'est Captain America, le Winter Soldier. Non, j'aime pas Captain America, le Winter Soldier. C'est un film sur la guerre froide, alors qu'il n'y a pas guerre froide.
C'est un putain de fasciste, Captain America. Un facho de merde.
Ça, on a imaginé avec Timothée dans un sketch qui serait de gauche, qui serait de droite. On a dit que Batman était d'extrême droite. Captain America de droite vénère.
Iron Man de droite.
Iron Man de droite, mais de droite cool. Ah, Iron non. Man, si, Iron
Macroniste,
Man.
Macroniste.
Oui, mais Iron Man, oui, mais c'est macroniste sans la réforme des retraites. Tu vois ou pas? Il y a un truc un peu...
Hulk, il est de droite ou de gauche?
Gauche, Hulk, il est handicapé. Non, mais c'est vrai. Attends, si, quand il s'énerve, il se transforme. Mmh. C'est hyper dur dans la société, il s'en sort pas. Alors que sa cousine, la She-Hulk, immonde cette série. Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est de droite.
Non, mais c'est quand même fou, parce que Marvel, moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, toute la première phase jusqu'à Endgame, je trouve que c'est un sans-faute.
Non, 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 attends, non, Thor, c'est dégueulasse.
Il y a Thor 1 et 2 qui sont immondes, et Captain Marvel qui nuit à chier. Mais sinon, moi, j'adore la première... Et
Thor, il est de gauche ou de droite?
Thor... Non, il est royaliste, Thor. Il est royaliste. Non, par contre, il y a un truc de... Non mais
Thor qui vote Bayrou.
À part non mais alors moi j'ai un truc que j'adore qui vote Bayrou. Non mais par contre le marteau. Non par contre il faut qu'on remette les choses au clair. Iron Man 3 c'est génial. Moi j'adore Iron Man 3.
Qu'est-ce qui se passe de mieux dans le cinéma français en ce moment à part toi?
Bon alors là c'est vraiment très prétentieux de ta part de me.
C'est juste
qu'est-ce
pour te mettre mal à l'aise.
De mieux. Bah je crois que les codes commencent un peu à changer, ce qui fait quand même du bien parce qu'on peut se dire qu'on donne la parole à des gens qui ne l'avaient pas et ça c'est un peu évident. Moi je fais très attention parce que je suis très angoissé de mal faire, ce qui devient d'ailleurs un peu pesant pour les gens autour de moi qui n'en peuvent plus que je m'excuse. Mais je crois que je c'est important de voir que les gens ont une mentalité un peu plus ouverte qu'avant, que la vérité, ben, c'est plus trop la même vérité qu'avant, que on donne un peu plus la parole, même pas assez, mais beaucoup plus la parole aux femmes. Moi, j'ai une mère réalisatrice, je sais à quel point ça peut être dur de pas être considéré comme Arnaud Desplechin ou autre. Enfin, je sais pas du tout visé, mais en tout cas, il y a un truc de important dans la parole qui se libère. Et pas que par rapport à ça, même par rapport à plein d'autres choses, tu vois, dans les minorités, dans la manière... Et on n'y est pas encore, mais je crois qu'en tout cas, il y a une avancée qui est quand même positive et une prise en compte aussi qu'on peut faire... J'ai l'impression, avec les années, qu'on se dit qu'on peut plus se permettre qu'avant. Tu vois, je vois le cinéma de genre dont je suis pas forcément hyper fan, mais j'ai vu Le Règne Animal il y a pas longtemps et je me dis, putain, quand même, aujourd'hui, on peut quand même y aller... un peu plus qu'avant. Il y a eu une période, j'ai l'impression, de liberté qui s'est un peu assombrie avec le temps. Puis il y a eu Incognitos, qui a quand même fait révolutionné l'art de la comédie.
Il y a un avant, un après.
Il y a un avant, un après.
Il y a même un pendant.
Il y a, bah...
C'est peut-être le plus pénible, d'ailleurs.
Allez regarder le documentaire Franck Dubosc, In and Out. Non, j'invente. J'invente. Non, par ailleurs, après, il y a des recettes qui se perdent pas. Enfin, en tout cas, il y a deux choses. Il y a le milieu du travail qui tente d'évoluer, et c'est important. Et le milieu artistique qui se permet des choses et c'est chouette aussi. Mais il y a des recettes qui se perdent pas et qui marchent toujours. Exemple, Kung Fu Panda, brillantissime, je l'ai cité en philo au bac, c'était génial.
T'as eu deux?
Non, j'ai eu 13 au bac. Mais je crois que j'ai peut-être pas cité au bac, je l'ai cité, mais en tout cas dans un devoir de philo. J'adore Kung Fu Panda, j'adore Kung Fu Panda 2, j'adore Kung Fu Panda 3. J'ai hâte du 4, il y aura un avant après. Mais... Après, il y a des, tu vois, par exemple, je vois Spider-Man New Generation. Putain, les mecs, ils en ont rien à foutre et c'est génial. Enfin, au contraire, ils y vont, tu vois. Et moi, c'est un truc auquel je crois vachement.
Virginie Efira devrait-elle gagner un César de la meilleure Virginie Efira chaque année?
Bien sûr. Bien sûr. On a fait un sketch il y a pas longtemps.
Incroyable.
C'est vrai? Merci.
Hilarant.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Virginie, on l'embrasse parce qu'elle nous écoute et on sait qu'elle est hyper.
Virginie, le sang de la veine. Je l'adore. Elle est merveilleuse.
On lui fait des gros bisous. Avec quel acteur ou quelle actrice tu passerais une nuit de bringue enfiévrée jusqu'au petit matin?
Pierre Niney. Pierre Ninet, il est sympa, Pierre Ninet, ça peut être
Pierre
très Ninet, marrant.
Il a l'air bien cool. J'étais son babysitter quand il était petit, c'est vrai.
J'étais le babysitter.
C'est vrai, excellent, excellent.
Je lui envoie des lettres toutes les semaines, je lui envoie des mails, etc. Mais il me répond plus. La police est venue me voir une ou deux fois. Bon, je sais pas.
Harceler les gens, Nicolas.
Allez, on arrive à la fin.
Si. Oui.
Évidemment, pardon. Parce que je le considère comme un humoriste, alors qu'il est complètement comédien aussi. Baptiste Le Caplin, tous les jours quand il veut. Même s'il a des enfants, on va en boîte quand il veut. C'est le sang de la veine aussi.
Ton film préféré du Vincent Lindon Cinématique Universe.
J'adore Vincent Lindon. Ma blague préférée, c'est d'imiter Vincent Lindon qui joue. Et Vincent Lindon, je suis hyper intense. Je m'appelle Vincent Lindon, je suis hyper intense. Vincent Lindon qui s'occupe. C'est fou de donner autant de légitimité pour s'occuper des minorités à Vincent Lindon. Que j'adore, attention, on se connaît, c'est un mec adorable et tout. Enfin, en tout cas, avec moi, il est très gentil. Mais je me dis, c'est quand même génial parce qu'il fait des films ultra sociaux. Alors que tu. Enfin, mais ça fait plaisir, mais ça fait beaucoup de sociaux là.
Il y a un film ?
Je sais pas, il s'occupe tout le temps de. Pourquoi il est tout le temps patron d'usine ? Et après, il s'occupe d'un migrant. C'est Vincent Lindon, patron d'usine, qui s'occupe d'un migrant et qui le met chez lui. Et après, il va s'occuper d'un trafic de drogue et c'est réalisé par Stéphane Brisé. D'accord.
Philippe Lloret.
Ou Xavier Giannoli. Ouais, ma fille, elle est toxico, on peut plus. Ouais, je suis hyper intense. Vous comprenez pas ce que je vais vous dire.
On l'embrasse.
J'adore Vincent Lindon, je t'embrasse très fort. De Vincent Lindon Universe, je crois que. Alors, par ailleurs, Vincent Lindon est un très bon acteur de comédie. Pas assez mis en valeur dans la comédie. Mais je crois que le truc sur les finances, là, bon, je sais plus, on va dire la loi du marché. La loi du marché, ça lui a fait son prix à Cannes. Et voilà. Non, moi j'adore Vincent Lindon dans Titan. Alors que j'aime déteste Titan.
Ah, mais moi je déteste pas Titan, mais je suis moins sensible à Vincent Lindon. Je trouve qu'il est très très bien dans Titan.
J'adore dans Titan. Quand il danse, là, Vincent Lindon dans Titan, j'aime beaucoup.
Pour finir, merci de remplir ce petit questionnaire de satisfaction et de noter cette interview sur une échelle de 1 à 10. Qualité des questions.
7. Non, 8 les questions.
Hygiène de l'intervieweur.
2. Ça, c'est vraiment très, très. D'ailleurs, faut que t'ailles prendre une douche, Nicolas.
Propreté du lieu, les WC, ça allait ?
J'ai pas été au WC, mais en tout cas, la déco est super. Très chaleureux, on va dire quoi. Un petit 8, c'est bien 8, pour pas qu'ils prennent trop la.
Niveau boisson, rafraîchissement, ça allait ?
Ouais, c'était super, j'ai bu de l'eau.
L'odeur ?
L'odeur, ça, c'est bien. 5, 3, 2.
Mais merci beaucoup, Gabriel. On vous retrouve. On passe en promo, donc je vais vous vouer
de nouveau.
Voilà. Merci.
Ouais.
Merci.
Attends, je mets une cravate.
Merci beaucoup, Gabriel. Donc on vous retrouve.
Non,
mais on vous retrouve donc. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Comme cette interview.
C'est exactement pour ça qu'on l'a fait comme ça. C'est pour que les gens, ils sont là comme ça, ils font. C'est bientôt fini ou quoi ? Non, c'est pas fini. Ouais.
22 juin, jusqu'au 22 juin à la Scala à Paris. Il y a une tournée qui est prévue ou pas ?
Je ne se prononce pas, mais j'ai de la promo, si tu veux. Il y a le spectacle, jusqu'au 22 juin à la Scala. Peut-être ça continue après, peut-être pas, on verra, mais moi j'adore faire ça, donc on verra.
C'est le suspense,
très mauvais suspense. Et je tourne actuellement dans une série de Martin Bourboulon qui s'appelle Carême avec Benjamin Voisin, qui sort, je crois, l'année prochaine, peut-être.
Quand on a déjà vu C'est bientôt fini, par exemple, au Petit Palais des Glaces, on revient à la Scala, c'est le même spectacle, il change, il évolue. Quand on le tourne comme ça, quand on tourne un spectacle long cours, parce que ça va faire quoi ? Plus d'un an que tu le tournes quasiment, ce spectacle, maintenant. Comment il bouge ?
Ça dépend. Chaque soirée est différente et ensuite chaque théâtre est différent. Donc on l'adapte en fonction. Je dirais qu'à chaque fois qu'on tourne dans un nouveau théâtre, déjà on avance, j'espère, et on fait tout pour. L'ADN est la même, nous on bouge pas, le sujet reste le même, moi aussi, mais disons qu'il upgrade à chaque fois, quoi. On prend des XP.
Ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, quand même, comme tu connais ton texte, tu joues de plus en plus avec le public, tu t'autorises des pas de côté plus qu'avant, tu dirais, ou pas ?
Ouais, carrément. Après, des fois, t'es bridé par le temps, t'es bridé par plein de choses et tout ça, mais c'est vrai que oui, on essaye, bien sûr. Disons qu'il y a une liberté qui se prend de plus en plus, et que je prends de plus en plus mon pied, et que je suis de plus en plus chez moi, et donc j'accueille de plus en plus les gens chez moi, et donc il y a une communion de plus en plus forte aussi, quoi. C'est des moments très forts, ouais, qu'on vit de plus en plus fort aussi. Prenez vos places.
Ouais, et puis réservé, parce que c'est quand même très vite complet. Dernier mot, vous avez déjà commencé à travailler sur le spectacle d'après ou pas encore, c'est trop tôt ?
Non, pas encore.
Parce que vous êtes une feignasse ?
Non, parce qu'on a plein de projets. Disons qu'on a plein de choses en tête. Je veux pas trop me prononcer parce qu'on peut pas trop en parler, mais on dit « on » parce qu'on avance avec Timothée Furini, mon co-auteur et bras droit de toujours, et ma metteuse en scène aussi, Valentine Cadefis, qui a mis en scène le spectacle, et mon producteur Pascal Guillaume, et mon attaché de presse Aurélien Loncan, et plein de gens qui sont super, parce que j'avance pas du tout seul. Disons qu'on a 2-3 trucs dans une petite boîte qui va s'ouvrir d'ici quelques temps, dont on est très content, et on ne chôme pas.
Merci beaucoup d'être venu chez Josiane.
Merci Josiane.
Si vous pouviez laisser une petite pièce pour l'eau, la
consommation. Nicolas, tu veux qu'on discute un peu? T'as pas l'air.
Ça va très bien.
Non, mais si tu veux qu'on parle, moi je connais des gens pour t'aider, je peux non, te. Non, parce que je sens que ça fait quand même quelques épisodes que tu. Tu me dis, hein. Non, mais c'est moi, ça me.
Il va falloir y aller parce qu'il y a des clients qui arrivent juste après.
Je suis très gêné. Merci beaucoup.
Merci, Gabriel.